Interview.
Toutes, bonjour à tous, à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et sur internet, le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour. Au micro aujourd'hui, Bernadette Thomas, déléguée de la Drôme de l'UPR, Union Populaire Républicaine. Bernadette Thomas va nous présenter le parti et puis les applications politiques de son programme. Bonjour Bernadette Thomas.
Bonjour.
Alors, je l'ai dit, Union Populaire Républicaine, on en a un petit peu entendu parler à l'occasion des élections présidentielles qui ont eu lieu il y a peu de temps, mais ça n'est pas forcément un parti très connu. D'où vient ce parti et quelle est un petit peu son histoire et est-ce que c'est un vieux parti ?
Alors, l'Union Populaire Républicaine est née il y a exactement 10 ans. Le 25 mars 2007, pour les 50 ans du traité de Rome, de 57. Fondé par François Asselineau, qui est un homme qui... C'est un énarque, HEC, qui a travaillé au gouvernement de manière naturelle, puisqu'il avait ses diplômes, qui vient d'un milieu assez populaire. Son grand-père était paysan, comme beaucoup de nous en France. Et qui a travaillé à l'intelligence économique et à l'international. Il était conseiller autant à droite qu'à gauche, puisqu'il a travaillé avec Mitterrand et avec Jacques Chirac. Et en 2005, il a compris un petit peu ce que c'était que le fonctionnement de l'Europe. Lorsque les Français ont dit non au référendum en 2005, il comprenait de mieux en mieux les mécanismes de l'Union européenne, et il a été choqué par l'attitude de Nicolas Sarkozy, qui, 2 ans plus tard, a nié le vote des Français et a imposé le traité de Lisbonne, c'est-à-dire les Français rentrant dans les traités de l'Union européenne qu'on appelle le TUE ou le TU, et le traité de fonctionnement de l'Union européenne qu'on appelle le TFUE, ou on appelle ça le TFU.
Au niveau du parti, enfin en tout cas de M. Asselineau, lui, il était positionné comment par rapport à ce parti ?
À l'origine, M. Asselineau était tout à fait neutre. Quand il est rentré au gouvernement, il croyait, comme tout le monde, à la belle Europe. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est le plein emploi. Il n'avait absolument aucun a priori. Et plus il est rentré dans les mécanismes du gouvernement, plus il a compris que l'Europe, c'était plus la paye que la paix. Et que c'était absolument pas... C'était plus adapté aux intérêts privés qu'aux intérêts du peuple. Donc en 2007, il a tapé du poing sur la table en disant « Maintenant, je sors de ce gouvernement, vous mentez aux Français, je crée mon parti, que j'appellerai l'Union Populaire Républicaine, pour dire la vérité aux Français, dénoncer le dessous des cartes de ce qui se passe à l'Union européenne. »
Avec comme élément déclencheur, effectivement, ce non-respect du référendum en 2005.
Exactement.
Alors, il y a plusieurs mouvements en France aujourd'hui qui sont opposés à ces traités européens, mais pour diverses raisons et pas forcément les mêmes. Ça peut aller de l'extrême gauche à l'extrême droite. Comment on peut situer les motivations et éventuellement dans ce clivage gauche-droite l'UPR ?
Alors, vous venez de dire exactement le mot qu'il faut, le mot extrémiste. L'UPR se situe complètement au-dessus des clivages droite-gauche. François Asselineau a compris que depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis Georges Pompidou, qui était un employé de la banque Rothschild au départ, qu'on vote à droite ou à gauche, la France décline, la France se paupérise. Il a compris qu'on menait les gens en bateau en leur disant un coup « votez à droite » et un autre coup « votez à gauche ». Et que les gens étaient menés en bateau parce que de toute façon c'était la même politique, c'était la politique qui venait directement de Bruxelles par l'intermédiaire des traités de l'Union européenne et de fonctionnement de l'Union européenne. Effectivement, l'UPR est le seul, vraiment le seul mouvement qui dénonce les traités européens. Tous les autres mouvements, en particulier les mouvements qu'on appelle extrémistes, n'agissent pas du tout comme l'UPR. L'UPR fait des analyses de fond. L'UPR s'adresse à l'intelligence des Français. C'est un mouvement qui fait des analyses factuelles, il comprend le fond des choses et avec pédagogie, il met à disposition de tout le peuple ses analyses. Ensuite, à chacun de comprendre ce qui s'est passé, et par des référendums d'initiative populaire, les gens se situeront à partir du moment où François Asselineau aura pris les manettes de la France. Les mouvements extrémistes ont une démarche différente. Ce sont des mouvements idéologiques, c'est-à-dire qu'ils partent d'une idée et à partir de là, ils essayent d'appliquer leur idée à la réalité.
Quand vous dites les mouvements extrémistes, est-ce que vous pouvez situer davantage précisément ? On pense par exemple au Front National, j'imagine, tout de suite, mais seulement à eux ?
Ah non, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Les partis extrémistes, souvent, se terminent en isme. Vous me parlez de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est essentiellement des partis qui sont le souverainisme, qui parlent de souverainisme. Souvent, malheureusement, de racisme aussi. Les partis d'extrême gauche, c'est le trotskisme, l'internationalisme. Même le parti de droite, la droite, c'est le libéralisme. Le parti de gauche, c'est le socialisme. Tous ces ismes, je suis médecin de profession, me rappellent un peu la pathologie. Et des pathologies sur lesquelles on met des pansements en permanence. C'est ce que fait l'Union européenne. Elle met des pansements sur tous les maux de la société. Les partis extrémistes agissent souvent, malheureusement, avec démagogie. C'est-à-dire qu'ils font un enseignement, soit ils imposent au peuple, c'est ce qu'on a vu en URSS, ce qu'on a vu au Cambodge, ils imposent au peuple leurs idées par la violence, ou alors de manière plus soft par de l'enseignement. Mais c'est de l'enseignement qui ressemble un peu à de la propagande parce qu'il faut que le peuple applique les idées de la personne qui est à la tête. La grande différence de l'UPR, c'est que l'UPR est un parti pédagogique. Il s'adresse à l'intelligence, il ne s'adresse plus aux passions. Il n'y a plus le phénomène de lutte des classes. Il faut aimer les pauvres parce qu'ils sont pauvres, il faut haïr les riches parce qu'ils sont riches. Il n'y a plus tous ces phénomènes passionnels, mais on considère que tout le monde est au même niveau, tout le monde est capable de comprendre. On va au fond des choses, on fait des analyses factuelles et on les expose. C'est vraiment le parti de l'éducation populaire.
C'est quand même une drôle de définition de la lutte des classes que vous venez de faire. Mais enfin, ce n'est pas le sujet du jour. Vous avez des propos du coup généralistes et effectivement, vous semblez vouloir vous adresser à tous et comme vous le dites, à l'intelligence des gens. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie au niveau du positionnement ? Quand on veut faire de la politique, il y a des moments donnés où on doit avoir une ligne directrice, j'imagine. Vous n'en avez pas, vous proposer plutôt à chaque prise de décision une concertation citoyenne.
L'UPR, François Asselineau considère dans ses analyses que la France est actuellement dans la même position que ce qu'elle était en 1944. Elle est en terrain occupé. Une nation, normalement, ça vient de natus, c'est né d'eux. Quand on est dans une nation, on a la même culture, on a la même langue, on a la même monnaie. C'est comme ça qu'on définit une nation. Et après, il y a des frontières géographiques. La nation française en 1944 était prête à devenir allemande. En 1970, Joseph Lee, je crois, a lancé ce qu'on appelle aux États-Unis le soft power. C'est-à-dire maintenant, on va arrêter d'imposer ce qu'on veut par la violence, on va l'imposer par la culture, de manière soft. Et le résultat aujourd'hui, c'est que dans tous nos magasins, on a de la musique américaine, on est inondé par le cinéma américain et on oblige maintenant les enfants à l'école à apprendre l'anglais. Alors, j'ai rien contre, c'est intéressant. Les États-Unis sont une nation intéressante, mais qui a aussi des problèmes. Et eux, on peut avoir le droit aussi d'avoir envie d'apprendre le chinois, l'arabe, le russe ou n'importe quelle autre langue parce qu'on a des affinités. Mais l'anglais s'impose de manière extrêmement importante. Et cette analyse du soft power dénonce bien ce qui se passe aujourd'hui dans toute l'Union européenne. Les McDonald's dans tous les coins de rue, les grandes... Donc l'UPR dénonce ce qui se passe et François Asselineau a repris ce que Charles de Gaulle avait fait en 1944, le Conseil national de la résistance. Il a exactement la même démarche, c'est-à-dire faire un mouvement provisoire parce qu'on est dans l'urgence. Il faut absolument sortir de ce désastre économique dans lequel on est et sociologique dans lequel on est. Dans l'urgence, il faut rassembler tous les Français qui sont aujourd'hui en France et qui le désirent, quelles que soient leurs origines géographiques, leurs origines sociologiques, leurs origines culturelles. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la lutte des classes fait du mal. Parce que on monte les gens avec les émotions les uns contre les autres. Or, tous les Français souffrent pour l'instant. Les pauvres, évidemment, c'est terrible. On est là pour que chacun puisse vivre à un certain rythme. Quand je vois, moi, à l'UPR, qui est un mouvement qui se développe énormément, puisqu'il y a 28 000 adhérents maintenant, ce qui est quand même un très grand mouvement, ça en fait le quatrième parti de France, que ce mouvement n'est pas reconnu parce qu'il dit la vérité. Il y a des gens qui arrivent, mais qui peuvent, ils n'ont plus de voiture, ils ont du mal à sortir 10 euros.
Mais c'est... ça, c'est bien les pauvres quand même, parce que les présidents des sociétés au CAC 40, ils ne souffrent pas. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas de mal à sortir 10 balles.
Non, non, ah, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais tous ces gens-là sont les gens qui collaborent au traité de l'Union européenne, qui collaborent. On est gouverné pour l'instant, donc je termine en vous disant qu'il reprend le projet de Charles de Gaulle. Il fait aujourd'hui la même chose que le Conseil national de la Résistance. On rassemble tous les gens, qu'ils soient de droite, de gauche, pauvres, riches, blancs, noirs, tous ceux qui veulent que la France existe. On sort des traités de l'Union européenne par le Frexit avec l'article 50. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait d'autres partis eurosceptiques. Je suis étonnée de voir que ces partis eurosceptiques, depuis le temps qu'ils existent, il y en a un qui existe depuis 40 ans, un coup il sort de l'Europe, un coup il n'en sort pas. Un coup il sort de l'euro, un coup il n'en sort pas. François Asselineau, depuis 10 ans, il a toujours les mêmes analyses. Il faut sortir de toute urgence des traités de l'Union européenne grâce au Frexit, grâce à l'article 50 du traité de l'Union européenne, de manière à redonner les manettes aux gouvernants français. Il y a un article qui est l'article 5 de la Constitution qui impose au président de la République d'être le garant de l'indépendance de la nation. C'est le rôle du président de la République. Vous croyez que M. Macron est le garant de l'indépendance de la nation ? M. Macron obéit directement au traité de l'Union européenne par ce qu'on appelle les GOP, les grandes orientations politiques et économiques qui sont données directement aux gouvernants, et il est obligé d'obéir à ces grandes orientations politiques et économiques sous peine d'amende. Et les amendes sont déjà extrêmement élevées. Et M. Macron a été propulsé aujourd'hui sur la scène politique de manière, avec un marketing scandaleux, comme on lancerait une marque de lessive. On a lancé M. Macron il y a plus d'un an. Il a eu 75% du temps de parole. M. Asselineau a eu 1% du temps de parole. Et vous savez très bien qu'il y a une corrélation entre le temps de parole médiatique et les résultats aux élections. Monsieur Macron est passé comme une lettre à la poste, puisqu'on a mis en face de lui Marine Le Pen, l'épouvantail national. Monsieur Asselineau, qui a eu 1% du temps de parole, a eu 0,90% des suffrages.
Je vous entends tout à l'heure mettre en opposition l'UPR avec tous les autres partis. Il n'y a pas un parti avec lequel il y a des choses en commun, des choses avec lesquelles vous vous entendez, ou des gens avec qui éventuellement, par exemple, dans le cadre des législatives, il y aura une union possible, ou ce genre de choses ?
Dans la mesure où un parti politique sera d'accord pour sortir de l'Europe immédiatement en faisant jouer l'article 50, comme le font les Anglais aujourd'hui. Dans la mesure où ce parti sera d'accord pour être au-dessus du clivage droite-gauche, c'est-à-dire d'avoir fait les analyses que qu'on soit à droite ou à gauche, de toute façon, la France est en train de se paupériser. Et dans la mesure où on ne s'axe pas sur les sujets qui fâchent, tous les sujets de valeur, immédiatement, tout ça, ça sera réglé une fois qu'on aura récupéré notre indépendance nationale. Quand on aura récupéré notre indépendance nationale, il suffira de faire des référendums d'initiative populaire. Bien évidemment, je vous ai apporté le programme des législatives de l'UPR. Il y a 198 points. Nous avons un programme très établi. Mais à partir du moment où, pour tout ce qui est problème de valeur, c'est quand même aux Français, on est dans un État démocratique, c'est au peuple de dire ce qu'il veut. Il suffira que 500 000 personnes aient la même question posée en mairie, question validée par le Conseil constitutionnel. on fera un référendum d'initiative populaire. Et c'est les Français qui décideront le mariage, l'écologie, des points extrêmement importants pour leur vie de tous les jours.
Ça veut dire qu'on peut tout remettre en question, tout ce qui existe aujourd'hui ?
Bien sûr que non, on ne va pas faire des référendums tous les 3 mois, ni tous les mois. Mais sur des points, on a un programme. C'est un programme de bon sens. Le jour où on arrêtera d'amener tous nos vêtements du fin fond de la Chine où les gens sont payés 40 centimes, le jour où on refera une économie, je vois que cette jolie ville de Die, c'est ce qu'elle essaye de faire. L'autre jour, j'ai acheté de la laine dans un magasin. Je vois qu'il y a des gens qui tricotent, qui brodent, qui essayent de vendre leurs produits. Le jour où on vivra avec des produits locaux, les problèmes écologiques se régleront quand même de manière... et les problèmes de fonctionnement se régleront. Et les problèmes économiques aussi se régleront.
Hormis cette sortie du traité, des traités européens que vous dénoncez et cette volonté de, comment vous dites, d'indépendance nationale.
D'indépendance nationale. C'est-à-dire simplement donner aux gouvernants français leur rôle, qui est défini par l'article 5 de la Constitution. La Constitution étant quand même née en 1989, la première Constitution est née des droits de l'homme. Et du citoyen. C'est quand même toute la base de la République d'aujourd'hui. Il faut rester dans les valeurs républicaines d'aujourd'hui. Il me semble qu'il ne faut pas revenir à des choses antérieures.
Oui, mais alors, ça veut dire que pendant éventuellement un mandat de l'UPR, tout est en construction. Là, le premier projet, c'est de reprendre son indépendance pour ensuite reconstruire une France qui ressemblerait aux Français.
Exactement, une France qui reconstruire. On a des acquis, on part refondé. Toujours de quelque chose. Voilà, on part toujours de quelque chose. Charles de Gaulle, après-guerre, il a fallu reconstruire. Nous avons eu les Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses, c'était un gouvernement qui était fait avec un ensemble de la population. Je vous ai déjà dit que c'était des gens extrêmement divers. Ces gens de la population, de manière diverse, représentaient tous les Français. On a fait marcher l'économie et moi j'ai connu, puisque j'étais petite fille à l'époque, j'ai connu les Trente Glorieuses et je peux vous assurer que ça, il n'y avait pas l'état de paupérisation qu'on a aujourd'hui.
Et hormis cette sortie de l'UE, sur quoi l'UPR souhaite revenir au niveau des choses qui se sont passées depuis, on va dire, 60 ou depuis qu'on alterne la gauche et la droite dans le système que vous dénonciez tout à l'heure, qu'est-ce qui vous paraît essentiel de refonder et de revoir ?
Eh bien toute l'économie déjà, l'Union européenne en sortant, la France en sortant de l'Union européenne sort aussi du système euro, bien évidemment. Bon, je ne suis pas une économiste, je suis médecin à l'origine.
On reprend le franc.
On reprend le franc en sachant qu'un euro égale un franc. Donc tous les épouvantails qui disent la dette va augmenter, vous ne serez pas remboursé, tout ça, c'est absolument faux. Un franc sera un euro, c'est tout. Et dans tous les contrats que vous avez d'emprunt, il y a une petite ligne à la fin qui marque que les remboursements se feront dans la monnaie locale. Voilà, tout a été prévu. Cet article 50 a été prévu essentiellement pour les pays... les plus riches, les nations les plus riches, qui se disent « il est temps de sortir en urgence ». On agite l'article 50, ce que font les Anglais aujourd'hui, parce qu'ils voient qu'on va à la catastrophe avec l'euro. La macroéconomie est quelque chose de pas si compliqué que ça. Même moi, j'ai réussi à comprendre quelques petites choses. J'ai compris que c'est pas une monnaie libre qui circule entre tous les pays. On a encore des banques nationale, et il n'y a pas d'échange entre ces banques nationales. Donc l'argent est bloqué aux frontières. Si bien qu'il y a des pays du Nord qui s'enrichissent de plus en plus et les pays du pauvre comme l'Italie, la Grèce qui s'appauvrissent de plus en plus, qui sont obligés de vendre leur patrimoine. C'est comme ça que M. Macron nous a vendu l'aéroport de Toulouse et qu'on vend c'est pas de secret, à l'Arabie Saoudite, à Saoudite et qu'on vend le patrimoine, les beaux hôtels français, les vignes du Beaujolais ou du Bordelais et... On commence à faire comme tous les pays du Sud, à vendre tout ça. Ça sera une logique dans la mesure où on reprendra les manettes de la France, on arrêtera toutes les lois que nous imposent les GOPÉ, par exemple les délocalisations. Les délocalisations sont imposées à la France depuis le TFUE. Pourquoi il n'y a plus d'industrie en France ? Pourquoi M. Arnault, M. Bolloré, M. Bouygues vont mettre toutes leurs entreprises en Europe de l'Est parce qu'il y a un SMIC à 200 euros. Nous, nos parents, nos grands-parents se sont battus pour avoir des acquis sociaux, la sécurité sociale, pour avoir des entreprises, pour avoir des SMIC, pour avoir des professions réglementées. L'Union européenne enlève tous ces acquis sociaux. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une espèce de grand État fédéral où le SMIC sera équivalent pour tout le monde. On a un SMIC à 200 euros à droite, un SMIC aujourd'hui en France à 1150 euros. On va niveler petit à petit. C'est ce qu'on appelle la technique du salami. On fait des petites choses comme ça. Par exemple, on va faire disparaître, dans leur tuyau, il y a la disparition de la monnaie. De la monnaie. On payera tout par carte, dans leur tête pour l'instant, dans leur idéologie. On payera tout par carte. Alors on va enlever les grosses coupures de 500 euros en disant ça ne sert à rien. Ce qu'on appelle la technique du salami, là, on fait avaler aux Français les choses petit à petit. On va enlever les petites pièces de 1 centime qui ne servent à rien. Après, ça sera les pièces de 2 centimes, les pièces de 5 centimes, les billets de 200 euros. Puis après, on dira, oh, écoutez, c'est quand même compliqué. Donc, plus de marché en France. Plus de marché noir non plus. C'est une manière de reprendre la main sur tout le monde, sur toutes les régions européennes, parce que petit à petit, leur grand projet, c'est la perte de culture des nations, la perte de la monnaie qui caractérise une nation, le franc. Le franc, c'était la monnaie de l'homme libre. Franc, ça veut dire l'homme libre. Les Français, et de toute façon la force des Français, l'UPR le prouve aujourd'hui avec ses 28 000 adhérents, c'est un mouvement qui a une propulsion populaire extraordinaire. Il ne peut pas être connu au niveau des médias, il ne peut pas avoir sa place médiatique parce qu'il dit la vérité. Il dénonce le dessous des cartes.
On a beaucoup parlé d'économie depuis tout à l'heure, mais quand même, vous avez un petit peu mis le pied dans la porte au niveau de sujets de société et de la perte de notre culture. Sur quoi ça se concentre concrètement ?
Ça se concentre concrètement sur notre vie de tous les jours. Le déremboursement des médicaments. Petit à petit, la sécurité sociale ne va plus exister. La disparition des hôpitaux périphériques. Tenez, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu de gros problèmes avec la maternité de Die. J'ai eu un petit peu le dessous des cartes. La maternité ne reste ouverte depuis 30 ans que par des dérogations successives de courte durée accordées à la force des revendications citoyennes. La dernière en date du 8 avril demandait un prolongement de 5 ans. Comme elle tombait en période d'élection présidentielle, la ministre Marisol Touraine n'a pas donné de réponse. Elle a mis le dossier en attente et personne ne sait où il en est. Le collectif de défense de l'hôpital a fait cette demande en avril parce que le chef de service devait partir en retraite en mai, ce qui s'est produit hier, de manière étonnante. Les nouveaux candidats au poste mettent pour condition que la dérogation soit prolongée de 5 ans. Il faut savoir que depuis 30 ans, l'hôpital de Die vit avec des dérogations. Sachant que cette prolongation n'est pas accordée, on ne peut pas recruter un nouveau chef de service. Voilà pourquoi il n'existe que des intérimaires à partir de demain. Si le gouvernement Macron n'accorde pas de dérogation, la maternité va fermer. Moi, je peux vous assurer qu'en Drôme, là où j'ai accouché il y a 22 ans, la maternité fermait les 3 semaines après des mouvements populaires énormes. On ferme les maternités, on dégrade le niveau de vie de tous les Français. On va augmenter la TVA, étant donné que l'euro oblige à des dévaluations permanentes, bon c'est encore de l'économie, tous les Français, le niveau de vie des Français en pâtit tous les jours. La TVA va être obligée d'augmenter. Les impôts, en revanche, des grandes entreprises vont baisser. On enrichit les riches en permanence, on appauvrit, on a bien parlé des classes moyennes, mais on appauvrit tout le monde. Les gens qui vivent avec le RSA aujourd'hui sont de plus en plus nombreux.
Si je peux me permettre, on est reparti complètement sur des sujets économiques et on n'a pas été vers ma question. Vraiment, moi, j'aurais bien aimé qu'on aborde les sujets de société, les choses qui se sont passées, par exemple, lors du quinquennat de François Hollande. Qu'est-ce qui vous touche ? Par exemple, je ne sais pas, le mariage pour tous, ce genre de choses.
Non, l'UPR est très, très clair là-dessus. On ne s'occupe surtout pas de sujets de société qui sont lancés uniquement pour diviser les Français. Les Français vivent sous la peur. On est en état d'urgence depuis plus de 2 ans maintenant. Monsieur Macron vient de le prolonger. Les Français, on cherche à diviser les Français en permanence. Tous ces sujets sont des sujets qui fâchent pour diviser les Français. L'Union populaire est exactement le contraire.
Il y a quand même des gens qui tenaient à voir promulguer la loi et d'autres qui tenaient à la voir interdite.
C'est des faux problèmes, je sais, je me suis située aussi, c'est des faux problèmes tout ça. On occupe les Français avec tout ça. Comme on occupe les Français pendant les élections avec du cirque, on nous met des pantins et on nous occupe comme on occupait le peuple à l'époque des gladiateurs. On nous occupe avec la télévision, on nous occupe avec des sujets qui ne sont pas... Vous croyez vraiment que les personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts sont vraiment perturbées par les sujets de mariage pour tous?
La
première des choses, c'est quand même
si
de
les couples
vivre.
Homosexuels, en plus d'être homosexuels, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, oui, c'est des sujets qui les touchent. Enfin, moi, je veux...
Ça n'a rien à voir. Que les homosexuels vivent ensemble, ça s'est toujours fait. Bien sûr que les homosexuels vivent ensemble. Qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est un autre problème, c'est un problème économique.
Non, mais je pense que le fait que le pays ait des problèmes économiques ne crée pas d'échelle dans les problèmes. Et je pense, moi, au contraire, que ça intéresse les Français pour de vrai, certains sujets comme ça, et qui sont révélateurs de certains progrès de société. Et que non, on ne s'intéresse pas qu'au contenu de notre frigo, que ce sont des choses importantes.
Vous avez probablement la chance d'avoir un frigo qui est plein. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas leur frigo plein. Voilà. Vous avez commencé par me dire...
C'est vite dit, voilà. Par contre, parce que je suis dans une certaine précarité également. Du coup, pour remettre les choses dans le contexte, je préfère le dire tout de suite. Je parle en tant que personne dans la précarité et je le dis... Au-delà de savoir comment je vais faire pour remplir mon frigo, oui, ces sujets de société, je les trouve importants. J'imagine que je ne suis pas la seule.
Bon, vous avez un métier qui vous amène à être intellectuel, c'est très bien. Mais je vous assure que les analyses de l'UPR aujourd'hui, c'est de rassembler tous les Français qui le veulent, de manière à sortir du désastre économique dans lequel on est, qui entraîne effectivement des grands sujets de société. Ces sujets de société, on les traitera après et on donnera la parole à tous les Français. Ça ne sert à rien de se déchirer pour l'instant, à savoir les homosexuels, pas les homosexuels. Ça ne sert strictement à rien pour l'instant. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Les homosexuels ont le droit de vivre. Bien évidemment que les homosexuels ont le droit de vivre. Ben pour l'instant, ils ont le droit de se marier. Ils ont le droit de se marier. Qu'est-ce que vous voulez
Ça veut dire que l'UPR n'a pas de position ferme là-dessus et que ce sont des choses qui vont être traitées...
Après, une fois qu'on sera sorti de la catastrophe. Une fois... Vous croyez qu'en 1944, on s'occupait réellement de savoir si les homosexuels avaient le droit de se marier ou pas.
Ils venaient de se faire décimer dans les camps de concentration, donc j'imagine qu'on n'en était pas là, oui.
Oui, voilà. On n'en était pas là et on n'en est pas là aujourd'hui. C'est des faux problèmes, tout ça. Ça, c'est les phénomènes médiatiques qui lancent les Français sur des faux problèmes de manière à ce qu'on ne s'occupe pas réellement du problème de fond du Français.
Mais ça nous amène à d'autres choses que je vais voir avec vous si vous pensez que c'est des problèmes de fond et des choses importantes ou si vraiment on est dans l'urgence et qu'il y a d'autres choses qui vont être traitées après. Mais par exemple, le fait que M. Macron ait créé la parité dans son gouvernement, ça nous amène sur des questions de sexisme, par exemple.
Excusez-moi, mais bon, je parle peut-être en mon nom, mais je trouve ça d'une stupidité sans nom. Nous aussi, à l'UPR, vous savez que l'UPR est le parti qui présente le plus de candidats aux législatives. On a été un peu en souci, parce qu'il fallait, avec ces histoires de parité, qu'il y ait des femmes, et que les femmes s'intéressent un peu moins à nos politiques que les hommes. C'est-à-dire qu'à l'UPR, pour l'instant, il y a de plus en plus de femmes, mais il y en a encore 25% par rapport à 75% d'hommes. C'est dans la nature humaine, les hommes, naturellement, vont plus vers l'extérieur et vers... Bon, il se trouve que c'est comme ça pour l'instant. La parité fait que aux législatives, il a fallu qu'on trouve... Et on a trouvé 280 femmes. Et l'UPR est aujourd'hui le parti qui présente le plus de candidats aux législatives, 574 sur 577 circonscriptions.
Ça m'amène à une autre question. J'avais très peu de renseignements sur l'UPR avant de commencer cette interview, pour être honnête avec les auditeurs de Radio Diwa. Par contre, j'ai lu effectivement une question de sensibilité chrétienne. Alors, quel est votre point de vue là-dessus et surtout, quelle est l'importance, alors peut-être que vous allez me dire que c'est des sujets qui vont être traités plus tard, mais par exemple, de la question de la laïcité.
Alors, je peux vous dire que mon chargé de communication... De la Drôme, Nabil Oukdim, est un musulman qu'on s'entend très bien, que je vais faire une intervention à la mosquée la semaine prochaine. Je vous ai déjà dit que l'UPR rassemble tous les Français qui vivent sur le territoire. Je peux vous assurer que dans nos réunions, il y a des riches, des pauvres, des blancs, des noirs, des musulmans, des chrétiens et des laïcs, essentiellement des laïcs, puisque nous sommes tous laïcs, pardon, mais des athées, énormément d'athées, puisque vous savez que la France est devenue athée. Alors, d'où tenez-vous cette idée? Alors,
la France n'est pas devenue athée. La France est pour le coup une république laïque avec la séparation des églises et de l'État. Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais enfin, j'ai évolué dans les milieux estudiantins et professionnels. On rencontre quand même beaucoup d'athées en France. Mais d'où tenez-vous cette idée de christianisme à l'UPR?
Alors, de vaguement, une recherche vague sur Internet, c'est ce qui est indiqué sur l'article Wikipédia, par exemple,
Ça. Bon, alors,
comme ça, vous allez pouvoir le modifier.
Okay.
Si,
je peux vous assurer. Alors, il y a une chose à ne surtout pas faire. Allez sur le Wikipédia, je pense que vous parlez anglais, allez sur le Wikipédia anglais. Le Wikipédia français, non seulement est complètement faux. C'est des articles de délation.
Très court. Très,
très court. De la délation. Et en plus, on n'y a pas accès. Vous n'avez pas accès au Wikipédia français de l'UPR. Et pendant des années, M. François Asselineau n'a pas eu de site Wikipédia. Ils ont été obligés, à cause du développement de l'UPR, pour faire de la diffamation. Je vous dis, allez vous renseigner plutôt sur le site directement upr.fr. Vous verrez qui est François Asselineau. Vous verrez qui sont les candidats qui sont derrière lui, en particulier Vincent Brousseau, qui est son économiste, qui est un homme qui a travaillé pendant de longues années à la Banque Centrale Européenne et qui a quitté son travail. Il vit sans salaire aujourd'hui parce que la Banque Centrale Européenne a un fonctionnement qui ne marche absolument pas et l'euro va dans le mur. Deux articles dernièrement de la Bank of America a dit que l'euro va s'effondrer dans 6 semaines, dans 6 mois, peut-être dans 6 ans, mais l'euro va s'effondrer et que c'est une urgence de sortir de l'euro. Le prix Nobel de 2001 aussi, Joseph Stiglitz, dit exactement la même chose. Alors maintenant, on essaye de tenir l'euro. Il faut absolument, par le biais d'un grand État fédéral qui soutient le traité de l'Union européenne, qui sont les États-Unis, il faut absolument maintenir l'euro. Alors on regonfle les pays qui en ont besoin, mais c'est encore une idéologie. La monnaie euro ne peut pas tenir. Elle a une énorme faille, elle ne peut pas tenir.
Ce sera peut-être la conclusion de cette interview, à moins qu'il y ait des sujets qu'on n'ait pas abordés et que vous teniez à aborder avec moi.
Est-ce que je peux vous dire simplement que nous avons 3 enjeux aux législatives? Le premier enjeu, c'est l'indépendance nationale. Rappelez que les législatives, c'est une élection nationale, que tous les candidats que je vois sur les marchés qui font des promesses, qui promettent monts et merveilles, c'est encore idéologique parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas le faire dans la mesure où notre Constitution est maintenant verrouillée par les traités européens. Moi, j'explique sur les marchés. J'explique ce que c'est que les traités de l'Union européenne. Et vous ne pouvez pas imaginer comme les gens sont intéressés. Et lorsque je serai à l'Assemblée nationale, je ferai la même chose. Je ferai l'interface. Moi, je suis étonnée par certains députés qui sont à l'Assemblée nationale et qui n'explique pas tout ça aujourd'hui. Ils le savent, ils y sont tous les jours, ils ne l'expliquent pas. Moi, quand je serai, je ferai l'interface entre le peuple et le gouvernement, et j'expliquerai au peuple ce qui se passe réellement. Deuxième chose, deuxième enjeu des législatives, c'est le financement de l'État. Il n'est pas normal qu'un parti qui a 28 000 adhérents ne soit pas financé par l'État. Grâce à ces législatives, aujourd'hui, nous allons enfin réussir à avoir un financement de l'État comme tous les autres partis politiques. C'est bien pour ça qu'ils se développent et c'est bien pour ça qu'ils sont reconnus par les médias. C'est très facile de ne pas reconnaître un parti qui n'est pas financé, de ne pas le reconnaître au niveau des médias. Il faut savoir, les citoyens doivent savoir que chaque bulletin UPR mis dans l'urne sera un acte démocratique dans la mesure où il permettra à un parti d'être reconnu au niveau de son État puisque l'État sera obligé de donner 1,40€ par voix. Et il sera donc obligatoirement reconnu par les médias. Les gens, nous, on attend depuis 10 ans. On se diffuse pour l'instant avec le bouche à oreille. Moi, j'ai connu l'UPR par un ami d'amis, par hasard, et Internet. Mais il y a quand même encore énormément de personnes, en particulier, je le vois sur les marchés, des personnes âgées, qui ne vont pas sur Internet. Ils y vont après. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui me disent « Je vais demander à mon fils, je vais demander à… » Et il faut aller sur le site upr.fr. Voilà. Je peux vous dire simplement qu'en Drôme, François Asselineau est arrivé en tête des parrainages. Nous avons fait partie de l'équipe de parrainage et que les maires qui le parrainaient disaient « Je parraine ce parti parce que c'est un parti de bon sens ». Et nous arrivons aujourd'hui aussi en tête des législatives. C'est un mouvement réellement populaire. Si vous aviez vu la réunion le 25 mars là, 2017 pour les 10 ans de l'UPR, il y avait 6500 personnes, c'est assez inaperçu au niveau des médias, avec une ferveur populaire extraordinaire. Il est temps de reprendre le contrôle de la France par les urnes, et surtout pas, c'est peut-être mon métier de médecin, j'ai fait du SAMU, surtout pas par la rue. J'ai connu l'extrême gauche quand j'étais jeune, prôner la violence aux jeunes, la violence de la rue, non. On peut aujourd'hui, on est dans une république, on peut passer, récupérer une démocratie par les urnes. C'est pour ça que je suis à l'UPR.
On aura l'occasion très bientôt sur les ondes de Radio Diwa d'entendre
Brigitte Rousselet,
voilà la candidate UPR à la troisième circonscription de la Drôme, afin de creuser le sujet plus précisément des législatives. Merci beaucoup Bernadette Thomas.
Merci
d'être venu.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Je vous en prie d'être venu sur les ondes de Radio Diwa afin de présenter l'Union populaire républicaine et puis d'en faire un petit peu comme ça un portrait en à peu près 30 minutes. Mais en tout cas, j'espère que les auditeurs ont une idée plus précise à présent de ce qu'est le parti de Monsieur Asselineau. Restez bien à l'écoute de nos ondes. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews sur notre site internet le www.rdwa.fr. Merci d'être à notre écoute.
Interview. Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.